Bien, mesdames et messieurs, je propose qu'on commence. Bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue à ce cours qui est le premier de cette chaire intitulée « Évolution des génomes et du développement ». Il y a beaucoup de matériel en fait qui est couvert par cette appellation et j'espère pouvoir parler de beaucoup de choses pendant ces cinq années. J'ai décidé, en fait, pour la première année, de vous parler des relations très intéressantes, synergies aussi, qui existent entre ces deux très grands domaines des sciences de la vie, que sont d'une part l'évolution des animaux et d'autre part l'embryologie, la biologie du développement. Depuis une trentaine d'années à peu près, ces deux disciplines se sont réunifiées en quelque sorte, on le verra plus tard, pour donner naissance à une discipline. Alors, est-ce que c'est une discipline? Est-ce que c'est une discipline fugace, occasionnelle? On le discutera aussi. Que l'on appelle parfois l'évo-dévo. En résumé, c'est en fait l'impact qui a eu le développement des outils moléculaires, de la technologie, sur notre compréhension du développement des embryons, qui nous renvoie à notre compréhension de l'évolution, qui évidemment nous renvoie à la compréhension du développement. Et c'est ces relations-là que j'aimerais discuter cette année dans ce cours. Alors je vais commencer par, aujourd'hui et la semaine prochaine, par une approche un petit peu théorique, un peu historique, pour peut-être rappeler, fixer certains concepts, et puis pour vous présenter ce qu'on considère aujourd'hui comme étant cette discipline de l'évo-dévo. Et puis peu à peu, sur les séances suivantes, je montrerai un peu les tours, et j'irai un peu plus en détail dans les expériences et dans ce qui se fait aujourd'hui dans ce domaine, en termes d'application vraiment de tout ce développement technologique incroyable auquel nous assistons aujourd'hui, comment ce développement impacte cette discipline de l'évo-dévo. Avant de commencer, j'aimerais mentionner brièvement que le 18 mai 2018, il y aura une journée qui sera consacrée entièrement à cette discipline de l'évo-dévo. Ce sera un colloque qui aura lieu ici et pour lequel j'ai invité beaucoup d'experts français, principalement français et anglais, qui ont été à l'origine de cette discipline. Et je leur ai demandé non seulement de nous raconter ce qu'ils veulent nous raconter, mais vraiment d'essayer de contextualiser leur discours, d'approcher le côté épistémologique, de savoir est-ce que vraiment quelles sont les racines de cette discipline et où elle va. Donc, si vous avez l'occasion de venir à ce symposium, je vous encourage. Voilà. Alors, évolution et développement, évo-dévo. Alors, on verra que ce n'est pas innocent déjà d'appeler cela évo-dévo, parce qu'on pourrait aussi appeler cela dévo-évo. C'est une source d'antagonisme, en fait, sur laquelle je vais revenir de maintes reprises. Une histoire, quelques principes et des exemples actuel. J'aimerais commencer par vous rappeler que la biologie du développement, c'est vraisemblablement la discipline des sciences de la vie qui est la plus ancienne, puisque de tout temps, Homo sapiens a dû regarder des pontes de batraciens, des pontes de reptiles, ne serait-ce que de voir naître un être humain. Donc, l'être humain a toujours été confronté à cette discipline qui est la biologie du développement. Ça remonte même bien avant Aristote. C'est une discipline qui étudie le développement des embryons en utilisant des techniques aussi variées que l'observation simple, on apprend beaucoup par l'observation, ainsi que des techniques extrêmement compliquées qui touchent à ce qu'on appelle aujourd'hui la génétique moléculaire, on y reviendra, la biochimie, ou plus récemment, la génomique, c'est-à-dire l'utilisation des génomes entiers pour étudier le développement des embryons. J'espère pouvoir discuter de cela à la fin de ce cours. La question fondamentale que pose la biologie du développement, c'est une question intéressante. C'est une question qui se repose sur deux piliers qui sont à la fois un pilier quantitatif. Comment peut-on contrôler le nombre de cellules que nous avons? Qu'est-ce qui fixe la quantité? Comment peut-on partir d'une cellule unique et arriver à X centaines de millions, milliards de cellules, en contrôlant la quantité totale, certes, en contrôlant également la quantité par structure, par organe, par type cellulaire. Donc c'est un phénomène de contrôle quantitatif extrêmement compliqué. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est évidemment le pilier qualitatif. C'est que pratiquement aucune de ces cellules n'est semblable à sa voisine. Bien entendu, il y a des cellules de rein, des hépatocytes, des cellules sanguines. Donc en même temps qu'il nous faut produire ces quantités de cellules, il faut faire en sorte que ces cellules soient différentes les unes des autres. C'est le problème de la différenciation cellulaire, qui est un problème majeur en biologie du développement et qui doit être considéré, bien entendu, en parallèle à ce problème de la quantité. Puis, bien entendu, le quantitatif et le qualitatif ne font pas un organisme. Pour cela, il faut créer un système cohérent. Donc, il faut intégrer ces deux piliers dans un système cohérent qu'on va appeler l'organisme. Et cette troisième question, ce troisième aspect de la biologie du développement est de loin le plus complexe, car on sait à peu près comment contrôler le nombre de cellules. On sait à peu près aujourd'hui comment différencier ces cellules dans des types différents, mais on a toujours une idée très vague de comment construire, utiliser ces deux pans pour construire un organisme. Donc cette question, en fait, elle peut être résumée à cette phrase: comment passer du peu général au beaucoup spécialisé? Cette question, c'est la question de l'ontogenèse. C'est la question de notre origine, mais de notre origine en tant qu'individu. Notre origine développementale, ontogénétique. La question de notre origine en tant qu'espèce, en tant que groupe, c'est-à-dire la question phylogénétique, c'est une question qui, en fait, regroupe les mêmes piliers, finalement. C'est une question quantitative. Comment produire un nombre d'espèces invraisemblables qui existent sur Terre à l'heure actuelle, qui ont disparu? Une question qualitative, qu'est-ce qui fait que ces espèces sont différentes les unes des autres? Et puis une question synthétique, comment construire un ensemble, un écosystème dans lequel toutes ces espèces peuvent cohabiter? C'est des questions qui sont relativement similaires, les questions fondamentales de l'ontogenèse et de la phylogenèse. D'ailleurs, je vous ai mis ici deux arbres que j'ai volontairement réduits de façon à ce que vous ne puissiez pas les lire, parce que finalement, ce n'est pas ça l'important. Mais ce que vous voyez ici, ce sont deux structures, deux arborescences, et vous avez à gauche une phylogénie des animaux, certains d'entre vous l'auront déjà reconnue, avec un ancêtre, des branchements à deux, etc., et puis en haut, ici, les deutérostomes, les protostomes, les lophotrochozoaires, etc. Bref, mais une structure en arborescence. Et puis sur la droite, vous avez un linéage cellulaire d'un urochordé, Stylla apartita, sauf erreur, qui a été fait par Ed Conklin dans les années 1905. Et ce que j'aimerais vous montrer là, c'est qu'en fait, les structures de ces arborescences sont finalement les mêmes. Donc on a ici une phylogénie des cellules, alors qu'ici, on a une phylogénie des animaux. Alors, bien sûr, il y a la question des ancêtres communs. Existent-ils dans les deux cas? Il y a la question des extinctions, qui existent aussi dans les linéages cellulaires. On le verra avec le petit nématode Sonorhabditis elegans. La question principale, quand on regarde ces deux illustrations, c'est évidemment celle de la nature de la variation, c'est-à-dire Est-ce que, dans un cas de ce genre, on a affaire à une sélection naturelle, comme il semble que ce soit le cas ici, ou bien est-ce que ces divergences, ces arborescences, sont observées en réponse à un programme? C'est cette notion de programme qui, évidemment, est présente dans le cas d'une arborescence cellulaire, qui n'est pas présente dans le cas d'une arborescence phylogénétique. Ça, c'est la grande différence entre ces deux arbres. Et c'est évidemment la grande différence entre ces deux disciplines sur laquelle je vais revenir. Les relations entre le développement et l'évolution ont été des relations parfaitement naturelles, pratiquement jusqu'à la fin du siècle passé. Et par exemple, Aristote est un des premiers à avoir proposé des classifications liées à l'ontogenèse, des classifications du développement. C'est lui qui remarque que certains animaux sont ovipares, donc pondent des œufs, certains animaux sont vivipares, donc petits naissent sans œufs, certains sont même ovovivipares, un mélange des deux. Mais bien sûr, remarque que les animaux appartenant à ces catégories sont des animaux différents qui, par ailleurs, sont reliés par d'autres caractéristiques. Donc, le simple classement d'un caractère lié au développement vous entraîne automatiquement vers des considérations évolutives. En fait. C'est aussi simple que cela. Le type de segmentation des œufs, également une observation faite un peu plus tard, où l'on a des œufs qui se segmentent entièrement. Donc l'œuf va se couper en deux pour donner deux cellules. C'est ce qu'on appelle un type de segmentation holoblastique, qui évidemment est le type de segmentation que nous avons chez les mammifères, chez les humains, chez les amphibiens. Mais il y a d'autres œufs qui se segmentent de façon partielle. Par exemple, les oiseaux. On a alors affaire à un type de segmentation méroblastique. C'est-à-dire que l'œuf d'oiseau, l'œuf de poule, ne va pas se couper en deux pour donner deux cellules. Vous n'avez jamais vu, en ouvrant un œuf de poule fertilisé, deux grosses cellules. Donc l'embryon va se développer sur une toute petite partie de cette cellule par un système de segmentation partielle. C'est ce qu'on appelle une segmentation discoïdale, un disque, segmentation méroblastique. Donc en observant ces différences, bien entendu, on fait du développement et on fait de l'évolution. C'est à peu près au milieu du XVIIe siècle que les théories de génération spontanée vont disparaître, et notamment la théorie qui était proéminente à cette époque, qui était donc la théorie du sperme hématogène, à laquelle, semble-t-il, Aristote adhérait, qui est donc une théorie selon laquelle le spermatozoïde, au contact du sang utérin, provoquerait une sorte de cristallisation qui produirait un embryon. Alors aujourd'hui, cela peut nous sembler un peu absurde, mais c'est tout de même, il faut le relever, c'est tout de même une théorie d'essence naturelle. Ce n'est pas une théorie d'essence métaphysique. On a affaire à des réactions naturelles qui, évidemment, sont ce qu'elles sont, mais c'est une théorie d'ordre naturel. Cette théorie, bien entendu, disparaîtra. Et je pense qu'il est honnête d'attribuer à William Harvey, au milieu du XVIIe, la fin de ces théories de la génération spontanée. William Harvey, sa fameuse phrase « ex ovo omnia », tout se trouve dans l'œuf. Alors évidemment, fin de la génération spontanée, début d'une énorme question, puisqu'il n'y a pas de génération spontanée, d'où l'embryon sort-il? Et c'est à cette époque que commence un débat qui va durer à peu près deux siècles, qui est ce fameux débat entre la préformation et l'épigenèse. Alors, épigenèse, à ne pas du tout confondre avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, une utilisation différente, épigenèse à prendre au sens développement, épigenèse. La préformation, comme vous le savez, c'est l'existence de petits homunculus, ces petits hommes refermés dans le spermatozoïde qui eux-mêmes, dans leurs cellules, dans leurs gonades, contiennent des petits hommes refermés, une sorte de poupée russe. Et on avait d'ailleurs calculé à l'époque le nombre de générations qu'il fallait pour remonter à Adam. C'est un débat qui culminera au XVIIe siècle avec cet ouvrage tout à fait extraordinaire de Nicolas Hartsöcker. Vous pouvez lire au reste, l'œuf n'est à proprement parler que ce qu'on appelle placenta, dont l'enfant, après avoir demeuré un certain temps tout courbé et comme en peloton, brise en s'étendant et en s'allongeant le plus qu'il peut les membranes qui le couvraient. Et en posant les pieds contre le placenta qui reste attaché au fond de la matrice, il pousse ainsi avec la tête hors de la prison, en quoi il est aidé par la mère qui, agitée par la douleur qu'elle en sent, pousse le fond de la matrice en bas et donne par conséquent d'autant plus d'occasion à cet enfant de se pousser dehors. C'est tout à fait extraordinaire. L'expérience nous apprend que beaucoup d'animaux forment à peu près de cette manière des œufs qui les renferment. L'on peut pousser bien plus loin cette nouvelle pensée de la génération et dire que chacun de ces animaux mâles renferme lui-même une infinité d'autres animaux. C'est un texte magnifique qui, de surcroît, a été écrit à l'époque en français par un grand savant hollandais. La préformation, ce n'est pas quelque chose qui sort de l'esprit des gens, c'est quelque chose qui est soutenu par des expériences à l'époque. Et Hartsöcker mentionne le résultat d'expériences. Le genre d'expériences qui sont faites pour confirmer l'existence de la préformation, je vous en montre une ici, qui est une expérience qui est magnifique, qui a été réalisée par Charles Bonnet, un grand savant famille de Duguenot, émigré dans la Genève calviniste. Et Charles Bonnet, savant, philosophe, fait des travaux sur le puceron noir. Et vous voyez qu'en 1700, au milieu du XVIIIe siècle, il a des cahiers d'expérience qui sont déjà absolument remarquables, avec des jours, des heures. Et ce qu'il fait, quelque chose de très simple, il attend une ponte de puceron noir, il sélectionne un puceron dès qu'il est sorti, dès qu'il est pondu, pour être absolument sûr que ce puceron, cette puceronne, n'a pas été exposé à une reproduction sexuée, et il l'isole. Et vous voyez ici le compte, jour de juin, du mois de juin, le compte des jours, du nombre de pucerons récoltés le matin et l'après-midi, il y en a un total de 95, tout est noté, tout est propre, tout est clair. Et Charles Bonnet conclut que lorsqu'une puceronne est mise en isolation totale, eh bien, elle arrive facilement à avoir un minimum de 95 pucerons, que par conséquent, la reproduction sexuée n'est pas nécessaire et que par conséquent, on a affaire à une préformation. Évidemment, Charles Bonnet ne peut pas savoir à l'époque que pour faire ses expériences, il a utilisé une des rares espèces animales qui se reproduit par parthénogenèse, donc une espèce chez laquelle la femelle est capable de produire des embryons sans l'aide de spermatozoïdes. Il y a en fait passablement d'espèces qui sont capables de cette performance, mais pas chez les vertébrés, bien entendu. La préformation va, en règle générale, se terminer vers le milieu du XVIIIe siècle. Et un des grands esprits qui y contribuera sera M. de Maupertuis. Maupertuis a un esprit génétique. Il ne comprend pas, si on a affaire à une préformation, il ne comprend pas pourquoi, dans les croisements illégitimes à l'époque, entre des ethnies de couleur de peau différentes, on obtient des petits qui sont intermédiaires. Et c'est un des arguments à l'époque qui est utilisé pour en terminer avec la préformation. Alors cette controverse, eh bien, elle va se terminer. On ne voit pas cet homunculus. Malgré l'utilisation d'outils optiques qui sont de plus en plus performants, on commence vraiment à pouvoir analyser ce qu'il y a dans cet œuf. On ne voit rien. Et puis ségrégation des caractères. Donc exit la préformation. Là encore, on se retrouve devant un problème qui est un problème fondamental. Si effectivement il n'y a pas d'homoncule dans cet œuf, d'où sort l'embryon? Et c'est à cette époque que commence à se poser la question d'une théorie du développement embryonnaire, mais cette théorie, la question du mécanisme, comment cet embryon est construit, c'est une question qui vraiment ne viendra que bien après la proposition de la théorie de l'évolution par Charles Darwin, et on va voir pourquoi. Alors laissez-moi passer sur cette théorie de l'évolution maintenant pour, encore une fois, vous rappeler quelques concepts fondamentaux. J'ai intentionnellement pris cette image d'un livre anglo-saxon, bien entendu. Et comme vous le savez, la théorie de l'évolution est très souvent réduite aux contributions de Charles Darwin, qui, évidemment, a écrit un livre absolument admirable et qui a synthétisé tout le travail de ses prédécesseurs. Darwin a été, bien entendu, extrêmement influencé par le traité que Malthus a écrit sur le fait que quand une population se reproduit de façon plus rapide qu'elle ne produit les vivres nécessaires à sa survie, eh bien, il y a un moment où il va y avoir un problème. Et à ce moment-là, c'est probablement les gens les plus faibles, les moins adaptés des classes sociales inférieures qui probablement disparaîtront. Darwin lui-même le dit dans l'origine, il dit « c'est là la doctrine de Malthus appliquée à l'évolution des animaux ». J'ai mis ici une flèche noire pour essayer de contrebalancer un peu l'absence de rouge, ici évidemment pour M. de Lamarck qui est généralement un peu injustement traité par nos collègues anglo-saxons. M. de Lamarck, qui avec Erasmus Darwin, qui n'est pas mentionné ici, a été l'un des savants les plus importants dans la formalisation du transformisme, donc de l'idée que les animaux se transforment. Puisque pour qu'il y ait une sélection naturelle, il faut évidemment qu'il y ait une production de formes différentes. J'ai résumé en fait cette image a quelques dates importantes, si cela peut vous intéresser. Je pense qu'ils sont les dates clés lorsque l'on réfléchit à la théorie de l'évolution. Je dirais 1730 Linné, qui est le premier vraiment non seulement à proposer une classification des animaux, mais à baser cette classification sur des critères qui sont des critères évolutifs, sans le savoir évidemment, mais sur des critères morphologiques qui sont aujourd'hui encore pratiquement valable à 100%. Erasmus Darwin, fin du 18e, Zoonomia, l'idée de l'ancêtre commun avec Lamarck, transformisme, son grand discours à Paris en 1800, publication de Malthus sur le principe des populations, je l'ai mentionné. Tout cela, j'ai mis ici la date de naissance de Darwin pour vous montrer que tout cela se passe avant même la naissance de Darwin. Voyage de Darwin dans les îles Galapagos, dont je vais parler dans une minute, au cours duquel, si on lit ses cahiers de voyage, on ne ressent pas vraiment une inspiration évolutive. Comme vous le savez, c'est que plus tard, rentré en Angleterre, réfléchissant, réanalysant les échantillons qui s'est fait envoyer, qu'il débouchera sur cette théorie de la sélection naturelle. 1856-1859, contact avec Wallace, écriture de l'ouvrage, publication en 1859. Il y a deux, comme dans la question fondamentale du développement, l'évolution est en fait repose sur deux piliers absolument essentiels, qui est celui de la variation, c'est la question du comment. Comment peut-on produire des formes animales différentes? C'est un problème. Puis la deuxième question, qui est la question de la sélection, pourquoi certaines formes animales sont conservées, ont du succès, sont pérennes, alors que d'autres ne le sont pas. C'est deux questions qui sont extrêmement différentes. Et comme vous le savez, jusqu'à il y a, je dirais, une vingtaine, une trentaine d'années, la question du comment a été largement éludée, en fait, pas par une volonté particulière, simplement par manque de connaissances, par manque d'accroche, ne sachant pas par où rentrer dans cette question. Et donc cette question a été réglée avec la nouvelle synthèse au milieu du siècle passé, en disant que toutes les variations sont produites toujours de façon relativement aléatoire, que donc ce n'est pas le point fondamental. Le point fondamental, c'est que parmi toutes ces variations, il faut trouver la bonne. Donc le point fondamental, c'est le point de la sélection naturelle. Et lorsque vous allez maintenant dans les livres, les textbooks, les livres grand public, vous voyez toujours la même structure de présentation de la théorie. Vous voyez ici des organismes qui produisent plus d'offspring, de petits, que l'environnement ne peut tolérer. Donc il y a une production d'une pression de sélection. Et puis cette pression de sélection, les individus qui sont les mieux, etc., adaptés, vont survivre. Bon, la variation, vous l'avez ici, sous ce mot « varie ». Les individus dans une population varient dans leur caractère héritable. Voilà. C'est une phrase, c'est une sorte d'oukase. Ça ne dit absolument rien, strictement rien, sur la nature de cette variation. Et ce n'est que vers la fin du siècle, c'est-à-dire pratiquement 30 ans après la théorie, que Thomas Huxley, qui était un grand défenseur de la théorie de Darwin, qui l'a aidé en fait à la populariser, propose que, alors l'évolution n'est pas une spéculation, bien sûr, ça il le savait, ça, mais que l'évolution se passe au travers de l'épigenèse. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'un lien clair est établi entre la théorie de l'évolution. Darwin n'en parle pas du tout. Darwin a une tendance plutôt à ignorer les embryons. Entre, d'une part, la théorie de l'évolution et, d'autre part, une nécessité de considérer l'épigenèse au sein de cette théorie. Et Thomas Huxley continue en disant qu'une théorie de construction du corps, donc une théorie de la biologie du développement, doit complémenter la théorie du changement. En fait, c'est son petit-fils, Julian Huxley, qui était donc le frère de Aldous Huxley, qui a écrit « Le meilleur des mondes », son petit-fils Julian, qui en 1942, me semble-t-il, est vraiment à l'origine de cette fameuse discipline de l'évo-dévo. Il dit « Une étude de l'effet des gènes pendant le développement est tout aussi essentielle pour notre compréhension de l'évolution » que le sont les études des mutations et de la sélection. Là, c'est vraiment une phrase claire, qui est probablement la première que l'on peut trouver à cet effet, où il dit, non seulement il faut considérer une théorie du développement dans l'évolution, mais il faut considérer l'effet des gènes qui contrôlent le développement. Julian Huxley était quelqu'un d'extrêmement intéressant. C'était un scientifique qui faisait partie d'un mouvement eugéniste social. Pour autant qu'on puisse qualifier un mouvement eugéniste de social, mais c'est quelqu'un qui avait, à l'époque, dans cette structure, dans ces mouvements eugénistes non sociaux, avait une idée de l'eugénisme qui était associé à une idée sociale, d'essayer d'améliorer le sort des classes sociales. Quelque chose d'extrêmement compliqué à comprendre, mais si ça vous intéresse, je vous recommande de lire son ouvrage. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que Julian Huxley a été un des fondateurs de la synthèse moderne, de la nouvelle synthèse de l'évolution, et pourtant, lorsque l'on considère cette nouvelle synthèse, il faut bien admettre que sa contribution n'a pas été aussi flagrante que ce qui est indiqué ici. Fondation de l'évo-dévo, je pense qu'une des bonnes façons de définir les racines de l'Evo-Devo, c'est de reprendre une citation de Scott Gilbert, qui est un scientifique vivant, qui a écrit un livre, un principe de biologie du développement, qui est très lu, très intéressant. Scott Gilbert dit « L'évolution découle de changements hérités se produisant lors du développement des organismes. Les trajectoires développementales peuvent influencer les probabilités de ces changements. » Entre parenthèses, contraintes internes. Là, vous voyez qu'on sort déjà d'un changement aléatoire pur. Certains étant plus probables, certains changements, que d'autres. Une théorie de l'évolution plus globale et inclusive requiert que le modèle des variations proposées par la génétique des populations, c'est-à-dire une variation aléatoire, soit complété par un modèle génétique de la construction des organismes. On pourrait discuter sur la formulation « soit complété » ou bien « soit intégré dans un modèle de la génétique ». Je pense que là, il y aurait eu moyen, il y a un petit peu d'espace pour améliorer cette phrase. Mais je pense que dans cette phrase, vous avez vraiment la racine, la source de la pensée de l'Evo-Devo, c'est-à-dire l'idée que l'évolution découle des formes qui sont produites pendant le développement, que ces formes découlent de l'action de gènes particuliers et que ces gènes produisent des effets qui parfois sont contraints. L'évolution, évidemment, s'appuie en partie sur le développement, c'est ce qui ressort de cette phrase. Les mécanismes du développement sont donc une source de variations évolutives. Ce n'est pas nous qui allons produire des variations. C'est pendant le développement embryonnaire précoce, une source de variations évolutives. Et ces deux domaines sont donc intimement liés, bien que fondamentalement différents l'un de l'autre. Je parlais de ça tout à l'heure lorsque je vous montrais ces deux arborescences et je vais revenir sur la nature de ces différences. Un point important, faut vraiment garder à l'esprit, c'est que le développement n'a pas de valeur explicative pour l'évolution. L'évolution n'est pas quelque chose que l'on explique. Donc le développement n'explique pas l'évolution. Le développement se suffit à lui-même d'une certaine façon. On peut très bien passer sa vie entière à essayer de comprendre le développement d'un organisme sans même savoir qu'il en existe d'autres. De la même façon qu'on peut passer sa vie entière à travailler sur le moteur d'une voiture particulière sans même savoir qu'il peut y avoir d'autres voitures avec une turbocompression, avec un double carburateur, etc. Donc, c'est une discipline qui, en principe, se suffit à elle-même. Dans la réalité, évidemment, c'est différent. Les biologistes du développement sont constamment exposés à des considérations évolutives. On ne peut pas en être autrement. Je vous montre un exemple ici, un exemple qui a été beaucoup travaillé depuis, je dirais, une quarantaine d'années. C'est ce phénomène extraordinaire qui conduit ce petit bourgeon de membre que vous voyez là. Dans ce cas particulier, il s'agit d'une souris. L'image serait pratiquement identique pour un embryon humain, bien sûr. Vous voyez qu'en quelques jours, en 3 ou 4 jours, ce petit bourgeon qui ne ressemble pas à grand-chose, finalement. Regardez, celui-ci va prendre la forme d'une petite main, d'un membre postérieur et d'un membre antérieur. Et pour des raisons différentes sur lesquelles je reviendrai peut-être plus tard, mais ce système du développement des membres a été beaucoup étudié depuis une quarantaine d'années et en fait a été à la source d'observations extrêmement importantes. La raison pour laquelle ces membres ont été beaucoup étudiés, c'est que ce sont des structures qui peuvent être affectées sans affecter la vie de l'animal. Et par conséquent, on peut produire beaucoup de mutations, beaucoup de changements, sans risquer d'affecter l'animal lui-même. Et on le voit bien, puisque la population humaine a une collection très large de mutations dans les extrémités, des polydactylies, des syndactylies, des bras trop courts, des mésomélies, etc. Alors qu'évidemment, si on travaille sur la morphogenèse du cœur, ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Il est bien évident que le jour où l'on comprendra l'intégralité du mécanisme qui fait que l'on passe de cette masse de cellules non différenciées à ces structures fines, c'est-à-dire qu'est-ce qui pose le plan, qu'est-ce qui réalise le plan, qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'il n'y a que 5 doigts et pas 7 comme chez nos ancêtres Acanthostega. Le jour où l'on comprendra ce passage, on n'est pas très loin, en fait, il y a énormément de connaissances qui sont disponibles maintenant, il ne fait aucun doute qu'on comprendra ce qui s'est passé au moment où ces structures, ces doigts, sont apparues dans le courant de l'évolution. C'était à peu près au Dévonien, il y a 370 millions d'années, lorsque des animaux marins qui avaient acquis des extrémités avec des doigts ont commencé à sortir du milieu aquatique pour coloniser le milieu terrestre. Donc il y a un lien qui est absolument essentiel entre la connaissance de ce mécanisme et de celui-ci. Ce lien, c'est évidemment le mécanisme, puisqu'il est vraisemblable que les mécanismes ont été conservés. Alors, j'aimerais vous donner une très courte histoire de ces disciplines pour faire un résumé qui va être un peu lourd, mais je pense qu'il est utile pour voir où se situe dans l'évolution de ces disciplines l'émergence de cet Evo-Devo. Et pour cela, je remonte avant le début du XXe siècle, où, comme je vous l'ai indiqué, l'évolution et le développement, en fait, font partie d'un même portfolio de concepts. Je vous rappelle qu'à l'époque, certaines personnes utilisent d'ailleurs les mots de façon indifférenciée. On parle d'évolution pour parler de développement, disons jusqu'au milieu du 19e à peu près. Assez rapidement, au passage du siècle, on va avoir séparation entre, d'une part, l'embryologie causale, la génétique formelle et l'évolution. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, on commence à avoir des outils analytiques qui permettent de travailler. On commence à avoir des microscopes, des loupes efficaces. On peut couper, on peut fabriquer des fils de tungstène, on peut enlever un morceau, on peut rajouter un morceau. Et par conséquent, on plonge dans une approche mécanistique de l'embryon, qui est typiquement représentée par l'approche allemande, Hans Spemann, le Entwicklungsmechanik, donc là, c'est bien ce que ça veut dire, hein, la mécanique du développement. Et lorsque vous plongez dans votre moteur, bien, en fait, vous cessez de regarder un peu ce qui se passe ailleurs, parce que vous avez maintenant une vue verticale, et vous perdez l'approche horizontale. La génétique, c'est un peu pareil, développée par Thomason Morgan aux États-Unis. C'est un peu pareil, un objet génétique vous fait vous focaliser sur cet objet en multipliant les approches, les croisements, tous les allèles, les mutants, etc. Et peu à peu, vous sort de cette vue globale qui est la vue évolutive. Et c'est pour ça qu'il va y avoir cette séparation qui a été très bien décrite, en fait, par Stephen G. Gould dans son ouvrage « Ontogenèse et phylogenèse ». De l'autre côté, l'évolution, avec, une fois encore, des collègues qui, principalement, s'occupent de la question du pourquoi. Pourquoi tel allèle est présent avec telle fréquence dans une population alors qu'il est présent avec une fréquence différente dans une autre population. Cette embryologie causale, cette génétique formelle, vont se séparer en deux grandes branches. Une branche que j'appellerais la biologie du développement, qui est la biologie du développement classique, que l'on voit encore aujourd'hui, sous certains aspects, qui consiste à vraiment mettre les mains dans le cambouis, hein, faire des greffes, regarder ce qui se passe lorsque l'on remplace un morceau par un autre. Et puis, une autre approche, qui est celle de la génétique moléculaire, qui consiste à essayer d'isoler les éléments moléculaires qui sont derrière ces mécanismes du développement. Là encore, ce sont deux approches relativement différentes. Puis finalement, la génétique des populations, qui dérive de la génétique formelle, principalement Fischer, comme vous le savez, qui quitte l'analyse génétique de l'animal pour transposer ces notions de génétique à la population. Comment se comporte un allèle particulier, non pas au sein d'un organisme, mais au sein d'une population. Donc ça, c'est la naissance de la génétique des populations. La génétique des populations, rencontrant l'évolution, donnera au milieu du siècle passé ce qu'on appelle la nouvelle synthèse, la synthèse moderne, qui est une, finalement, qui est une vue de l'évolution relativement darwinienne, mais avec un aspect quantitatif qui est extrêmement important. On commence à quantifier avec des équilibres mathématiques, les lois de Hardy-Weinberg, les fréquences alléliques. Donc on ne considère plus une population comme un ensemble d'animaux, mais comme la présence d'haplotypes avec des fréquences X ou Y. Ça, c'est là vraiment la génétique des populations qui conduit à cette nouvelle synthèse. Et puis, révolution, sur laquelle je reviendrai, bien entendu, c'est au passage des années 1980, quand ces deux disciplines vont refusionner pour donner la génétique moléculaire du développement. Et je passerai un peu plus de temps sur ce point précis. C'est évidemment à cette époque que les premiers gènes du développement, pour autant que cela existe, mais donc les premiers gènes qui ont un effet direct sur le développement sont caractérisés, sont isolés, décrits, et qu'on commence à comprendre vaguement ce qui se passe. De la génétique moléculaire naîtra la génomique. La génomique n'est rien d'autre qu'un ensemble de technologies, finalement, qui permet de travailler avec des génomes de la même façon que l'on travaillait avec des gènes il y a une trentaine d'années. Finalement, la génomique, c'est cela. Plutôt que de regarder un gène en particulier, on va en regarder 22 000 d'un coup. C'est l'analyse à grande échelle des génomes. La génomique rencontre la nouvelle synthèse. C'est en train de se passer actuellement, en fait. C'est ce domaine extraordinaire de l'évolution moléculaire, de l'évolution des génomes, où l'on peut aujourd'hui, simplement basé par la comparaison de ces algorithmes extraordinairement compliqués que sont les génomes, d'essayer d'en tirer des inférences, peut-être même des conclusions. Donc on ne conclut plus en regardant des traits morphologiques, le nombre de doigts, la présence d'ailes, etc., mais on va conclure sur des caractéristiques moléculaires profondes qui sont les caractéristiques du programme, en fait. La génétique moléculaire rencontre maintenant la génomique et est en train de donner, depuis, je dirais, quelques années, ce que l'on appelle la génomique du développement, qui est une discipline sur laquelle maintenant beaucoup de gens travaillent, qui est d'essayer de comprendre comment le génome est relié au développement. Non plus un seul gène, non plus quelques gènes, mais comment l'intégralité du génome, c'est-à-dire les structures spatiales, la forme des chromosomes, non plus une génétique ponctuelle, mais une génétique générale, une génomique, qui considère tous les paramètres en même temps pour essayer de comprendre la nature des mécanismes de développement. Et puis alors, ces flèches, j'aurais peut-être dû les mettre en pointillé, c'est la rencontre à venir entre la génomique du développement et l'évolution moléculaire qui va faire une explosion absolument extraordinaire, qui sera ce qu'on peut appeler une sorte d'évolution synthétique ou de développement in silico, qui consistera à appliquer la connaissance complète de notre génome au mécanisme du développement. J'espère que les technologies vont se développer rapidement pour que soyons encore là quand ces choses se passeront. Ce sera absolument formidable. Ça ouvre aussi la porte à quelque chose que j'aime beaucoup discuter et sur lequel je compte passer passablement de temps, probablement l'année prochaine, qui est évidemment le transhumanisme qui va résulter directement, qui sera le premier effet, en fait, de la fusion entre cette évolution moléculaire et cette génomique du développement. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on sait synthétiser un chromosome de bactéries, pour autant qu'on puisse appeler ça un chromosome. C'est de l'ordre de quelques milliers de paires de bases. Et la question, évidemment, est-ce que nous pourrons un jour synthétiser un chromosome humain avec tout ce que cela représente comme problème pour l'entourer, pour le plier, pour le replier. Si tel était le cas, bien entendu, alors on irait vraiment vers une possibilité de reprogrammation qui serait tout à fait intéressante. Quand on considère ce schéma, qui a l'air très compliqué, en fait, on voit qu'il a deux branches. On voit qu'il a une branche vers la gauche et une branche vers la droite. Et c'est assez intéressant, en fait, de voir qu'il aura fallu, finalement, à peu près un siècle pour que ces disciplines, qui étaient une et même discipline avant le virage du XXe siècle, se réunissent au début du XXIe siècle pour donner cette nouvelle discipline d'évolution, développement moléculaire, in silico. Et on peut se poser la question de savoir si ces développements vont se faire en ligne directe à partir de cette réunion, ou si il va encore y avoir une séparation de ces domaines pour, dans 50 ans, dans un siècle, revenir ensemble pour une nouvelle explosion de connaissances. C'est une question qui est très intéressante, en fait. C'est un peu un problème d'une comète, hein, c'est-à-dire de disciplines scientifiques qui, tous les 50, tous les 100 ans, le développement, l'évolution, auraient besoin de venir se recharger en concept, en principe, hein, pour quelque sorte se renourrir, un peu comme une comète qui viendrait reprendre de l'énergie pour repartir. C'est une hypothèse qui est extrêmement discutée à l'heure actuelle. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce papier de Comet-Comet, de collègues avec qui on se bagarre depuis longtemps, de façon très amicale d'ailleurs. Il y a un débat qui est assez vif dans la communauté pour savoir si précisément cette discipline de l'évo-dévo est une discipline stable, a des règles épistémologiques qui lui assurent un équilibre historique relativement long, ou bien si cette discipline n'est qu'une sorte de rencontre un peu fugace qui précisément sert à engranger toute une sorte de concepts, d'idées qui sont des concepts extrêmement intéressants, et puis que les choses vont se repartir dans leur domaine pour se réunir encore plus tard. Ici, j'ai mis évidemment l'illustration de cette dispute, qui est que ce evo-devo peut aussi être appelé devo-evo. Cela illustre le fait que les gens qui viennent d'un milieu ou de l'autre ont une perception de cette discipline qui est un peu différente. Soit on la considère comme l'extraordinaire utilité de la biologie du développement pour finalement comprendre l'évolution, soit on considère de l'autre côté que finalement les biologistes du développement se sont intéressés un peu à l'évolution et y ont pris ce qu'il fallait pour essayer de comprendre ce qu'ils ne peuvent de toute façon pas comprendre. Alors la raison de cette distance entre ces deux points de vue, c'est évidemment des raisons épistémologiques. Je vous les rappelle brièvement ici. La biologie du développement, c'est une discipline qui est basée sur une hypothèse de récurrence, bien entendu. C'est parce qu'à chaque génération, on refait le même embryon que l'on peut travailler. Ce qui n'est pas absolument clair, d'ailleurs, d'un point de vue théorique, ce n'est pas le cas, puisque l'évolution n'est pas bloquée. Donc ce n'est pas vrai qu'à chaque génération, on répète le même principe. Mais, dans les faits, je pense qu'il est permis de considérer que ce que l'on apprend sur un embryon peut être transposé sur l'embryon de la génération suivante. Et c'est là où se trouve la raison profonde, l'intérêt profond de la biologie du développement. C'est une approche bernardienne. On peut faire une prédiction, On peut vérifier la prédiction, faire une hypothèse, vérifier, faire une conclusion, faire une hypothèse, revérifier. Il y a donc une possibilité de démonstration, évidemment avec des guillemets, sur que s'est-il passé ? Comment cela s'est-il passé ? Donc c'est une approche prédictive. Et comme on le sait, il y a un résultat à atteindre. Je ne veux pas mentionner par là que l'embryon a un résultat à atteindre, mais il y a un résultat à atteindre. L'évolution, évidemment, est de nature totalement différente. C'est une discipline qui est basée sur une hypothèse générale de non-récurrence. C'est la base de l'évolution, c'est que ça évolue. Donc il y a une possibilité d'une explication. Que s'est-il passé ? Probablement. Pourquoi ? Donc c'est une approche qui est avant tout rétrospective, et le résultat est avant tout à expliquer. Donc ce sont des règles qui sont évidemment extrêmement différentes. Et c'est pour cela, en fait, qu'il est difficile d'imaginer un équilibre stable dans lequel ces deux disciplines seraient intimement confondues. J'aimerais maintenant passer à cette génétique moléculaire du développement, à cette révolution, en fait, qui a été vraiment à la naissance de cette discipline de Levo-Devo. Donc je vous l'ai mis ici, fusion entre la génétique moléculaire. Pour vous donner une idée, dans les années 80, début des années 80, beaucoup de collègues clonaient des gènes, isolaient des gènes. C'était l'époque où l'on pouvait commencer à découper des morceaux d'ADN, de les caractériser, de les séquencer. Donc on commençait à avoir une idée, une relativement bonne idée, de ce qu'était l'ADN, de ce qu'était une unité de transcription, comment ça fonctionnait, où ça commençait, où ça finissait. Ça, c'était l'état des connaissances au début des années 80. Et puis, en biologie du développement, on disposait déjà des tas de concepts nécessaires, par exemple les concepts de gradient, les concepts d'information de position cellulaire, pourquoi une cellule ici se comporte différemment d'une cellule ici. Ça, c'est des concepts que l'on avait en fin des années 80. Et puis, fusion de ces deux domaines, en génétique moléculaire du développement, grâce, alors c'est un peu réducteur, mais je dirais grâce à trois découvertes majeures, semble-t-il. La première, c'est le travail d'un scientifique formidable qui s'appelait Ed Lewis aux États-Unis. Ed Lewis, alors désolé avec cette couleur un peu palote, mais Ed Lewis travaille pendant de très très nombreuses années sur des mutants de mouches qui présentent des malformations dans la partie abdominale, la partie thoracique. Ce sont des malformations qui sont suffisamment étranges, suffisamment visibles pour que ça l'intéresse. En 1978, Ed Lewis publie un papier fondamental dans lequel il propose l'existence d'une famille de gènes qui sont responsables pour l'organisation des morphologies de la mouche. En parallèle, en 1983, le laboratoire de David Hognes met au point une nouvelle technique d'analyse des chromosomes qui leur permettent de caractériser moléculairement cette famille de gènes, disons le locus génétique au sein duquel cette famille de gènes décrite par Ed Lewis se trouve. C'est ce qu'on appelle une marche chromosomique. C'était évidemment une technique qui n'est même plus, pas qu'elle n'est pas enseignée aujourd'hui, elle n'est même plus mentionnée aux étudiants, puisqu'aujourd'hui on séquencerait en une journée le génome et l'affaire serait faite. À l'époque, c'était une autre paire de manches. Il fallait sortir un morceau d'ADN et puis avec ce morceau d'ADN, aller chercher le morceau voisin et puis avec ce morceau voisin, aller chercher le morceau voisin et le voisin, c'est ce qu'on appelle une marche chromosomique. Et grâce à cette marche chromosomique, le laboratoire de David Hognes peut finalement isoler un grand morceau d'ADN dans lequel il suspecte que ces gènes se trouvent. Et puis, troisième contribution majeure, celle du laboratoire de Walter Gehring, en particulier Bill McGuinness, Mike Levine, à Bâle, qui vont trouver à l'intérieur de cet intervalle génomique les gènes, grâce en partie à l'ADN obtenu chez David Hognes, qui vont pouvoir isoler les gènes qui sont dans cet intervalle génomique. Alors, ces gènes, ce sont ces fameux gènes homéotiques, qu'on appelle aujourd'hui les gènes HOX, ce sont les gènes architectes, et ce qu'avait prévu, anticipé Ed Lewis, s'avère vrai après la caractérisation de ces gènes. Vous voyez ici, ces gènes sont en fait en deux complexes génomiques, ils sont interrompus là. Cette partie-là est la partie qu'avait travaillé Ed Lewis, est la partie qui avait été clonée par David Hognes. Et vous voyez ce schéma, en fait, que vous avez peut-être déjà vu, qui montre que chacun de ces gènes est en fait responsable pour la détermination de certaines parties de cette mouche. Par exemple, ce gène ABDB, ABD pour abdominal, est un gène qui est nécessaire à la construction de l'abdomen. Alors, en plus, ces gènes sont organisés d'une façon qui reflète l'organisation de ces structures. Ça, j'en parlerai plus tard, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais c'est donc la description, dans les années 1985-86, de ce schéma final, qui va stimuler plusieurs groupes de recherche à aller rechercher ces gènes chez des vertébrés. Et puis, comme vous le savez, cinq années plus tard, donc dans un laps de temps relativement court, eh bien, cette même famille de gènes est isolée chez les génomes des vertébrés, d'abord chez la souris, chez les humains, et vous voyez qu'une correspondance est établie, ce qui montre en fait que la façon dont les êtres humains spécifient des structures le long de leur axe antéro-postérieur est finalement exactement la même que la façon dont les insectes spécifient les structures le long de leur axe antéro-postérieur. C'est la même famille de gènes qui a été conservée, pas exactement les mêmes mécanismes, ce sont des mécanismes qui sont très similaires les uns aux autres, d'où l'idée d'un ancêtre ici, d'un animal ancestral qui évidemment n'existe plus, qui aurait eu cette séquence de gènes architectes, de gènes HOX, qui aurait évolué d'une certaine façon chez les arthropodes et d'une autre façon chez les vertébrés. C'est à partir de ce moment que va se formaliser ce concept, cette nouvelle discipline de l'évo-dévo. Et cette discipline, en fait, est caractérisée, je dirais, par trois grands principes. Et ce sont des principes que l'on peut appeler fondateurs de l'évo-dévo. Le premier de ces principes, c'est l'idée d'une boîte à outils, d'un « toolbox ». C'est une idée qui a été proposée probablement, je dirais, par un scientifique qui s'appelle Sean Carroll, qui travaille dans Madison, aux États-Unis. Et l'idée est que chaque génome contient une boîte à outils, c'est-à-dire une collection de gènes qui n'est pas énorme, relativement restreinte, dans laquelle on trouve des facteurs de transcription, c'est-à-dire des gènes qui codent pour des protéines de contrôle, pas des protéines qui vont faire des cheveux, ou pas des protéines qui font quelque chose de concret, mais des protéines qui vont retourner dans le noyau pour contrôler l'expression génétique, donc des gènes maîtres. Des facteurs paracrines, c'est-à-dire des protéines qui vont signaler juste à l'extérieur, au voisinage, ce qui se passe. Je suis là, je fais ça. Et ces facteurs sont présents chez tous les animaux et montrent de grandes similarités. Alors, je vous rappelle quand même qu'à l'époque où j'ai étudié en Suisse, mais probablement c'était pareil en France, On expliquait le fait que l'éléphant avait une trompe par un gène de la trompe. Et aujourd'hui, on sait que les éléphants n'ont pas de gène de la trompe. Les éléphants ont les mêmes gènes que nous avons. Et évidemment, ça change complètement le paradigme, ça change complètement la question. Quand je parle d'un changement de question, ce n'est pas qu'on ne se pose plus la question de savoir pourquoi l'éléphant a une trompe, mais c'est qu'on se pose la question pourquoi nous n'avons pas de trompe, puisque nous avons les mêmes gènes que l'éléphant. Donc c'est un renversement du questionnement, en fait. C'est un changement de paradigme. Et ça, c'est en grande partie dû à l'existence de cette toolbox, cette boîte à outils. On s'est dit, ben voilà, en fait, les grandes étapes du développement de tous les animaux sont basées sur un corps, sur une petite collection de molécules, de principes qui sont les mêmes, qui sont conservés. Alors après, il y a une interprétation de ces mécanismes qui sont, bien entendu, qui est différente, mais les mécanismes de base sont conservés. Ensuite, ces facteurs de transcription par acrine sont reliés par les mêmes voies de signalisation. Alors, vous savez que les tissus, les cellules, pendant le développement, plus tard, pendant le métabolisme, n'arrêtent pas de se parler, de communiquer, d'envoyer des signaux et de recevoir des signaux. Eh bien, dans les années, fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90, on s'aperçoit, là encore, à la fois par des approches génétiques chez les invertébrés, par des approches biochimiques chez des vertébrés, que ces voies de signalisation sont finalement extrêmement conservées. Elles ne sont pas nombreuses en plus. Le corps est un espace dans lequel il n'y a pas beaucoup de langages différents de communication. On en connaît peut-être 10, 12, 15 maximum. Ce sont des voix dont vous avez peut-être entendu parler, la voix Notch, la voix Wnt, la voix Thor, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup. Par conséquent, ce sont des voix qui sont constamment réutilisées. On les réutilise partout. Et puis finalement, ces gènes sont régulés par des enhancers. Alors ça, c'est des potentiateurs, des séquences de régulation qui non seulement sont multiples, mais qui ont une grande modularité, de telle sorte que l'expression de ces gènes peut être modifiée de façon locale, intra ou interspécifique. Je vais vous en donner un exemple qui clarifiera cette phrase. J'aimerais vous montrer trois exemples pour chacun de ces points, pour clarifier la situation. Premier exemple, je vais vous montrer les distributions de l'expression de gènes qui contiennent des homéobox qui font partie de cette boîte à outils. Finalement. Ce sont des facteurs de transcription. Et vous voyez ce schéma qui est sorti du livre de Scott Gilbert, qui est un schéma qui a l'air compliqué, mais finalement, il est simple. Vous avez dans la partie supérieure, ici, une sorte d'éclaté de drosophile. Et puis, dans la partie basse, vous avez le même éclaté, mais de vertébrés. Le postérieur est ici, l'antérieur est ici. Et ces traits de couleur vous montrent, pour des gènes orthologues, c'est comme ça que l'on qualifie des gènes identiques dans deux espèces différentes. Le gène de l'alpha-globine chez la souris est orthologue au gène de l'alpha-globine chez nous. Mais vous voyez ici la distribution de ces domaines d'expression chez la mouche et chez les vertébrés. Et vous voyez qu'en fait, ces gènes répondent au même principe. Bien sûr qu'il y a des différences. Mais on voit que les gènes qui organisent l'axe antéro-postérieur chez la mouche sont les mêmes que ceux qui organisent l'axe antéro-postérieur chez les vertébrés. Mais jusqu'à la région occipitale, pas plus haut, ça s'arrête là. Vous voyez que plus haut, on passe sur une autre famille de gènes. Mais ces familles sont les mêmes. Donc les gènes qui sont dans la région de la tête sont différents de ceux qui sont dans la région du thorax ou de l'abdomen, mais ce sont les mêmes dans les deux cas. Ça, c'est vraiment l'idée de cette boîte à outils, donc de ces gènes qui codent pour des protéines qui ont des fonctions très similaires chez les invertébrés et chez les vertébrés. Deuxième exemple, pour ces voies de signalisation, je vous en montre une, c'est une image compliquée, mais finalement relativement compréhensible. Ignorez tout ce qui est à gauche ici. C'est juste pour vous expliquer ce que c'est qu'une voie de signalisation. Vous avez une cellule ici, le noyau est ici. Vous avez des tas de protéines qui sont à la membrane, qui sont des capteurs de ce qui se passe à l'extérieur. Et puis parfois, vous avez une molécule qu'on appelle un ligand qui va venir toucher, se lier à ces capteurs extérieurs, qui sont des récepteurs. Et lorsque cela se passe, ces ligands vont enclencher toute une série de réactions à l'intérieur de la cellule. Et par une chaîne de réactions à l'intérieur de la cellule, il va y avoir en fin de chaîne quelque chose qui va rentrer dans le noyau et qui va activer ou qui va inhiber l'expression d'un gène. Ça, c'est vraiment un exemple complètement bêta d'une voie de signalisation. Dans ce cas particulier, c'est une voie qu'on appelle la voie Wnt. La molécule la plus importante dans cette voie, pour autant qu'il y en ait une, c'est cette molécule-là, la bêta-caténine. On en a partout dans nos cellules. Tant qu'il n'y a pas de signal, cette protéine est dégradée. Dès qu'il y a un signal, cette protéine est maintenue, elle va entraîner quelque chose dans le noyau et cela va activer la transcription des gènes. Donc, juste pour vous montrer ce que l'on entend par une voie signalisation, eh bien, cette voie Wnt a été en fait mise sur pied. Tous ces composants ici ont été caractérisés, ont été ordonnés, classés, à la fois par un travail génétique chez la mouche et par un travail biochimique chez les vertébrés. C'est vraiment un exemple de complémentarité parce que cette voie est pratiquement identique, les petites différences chez les vertébrés et chez les invertébrés. Puis, dernier exemple sur ces paysages de régulation, et j'en terminerai avec cela aujourd'hui, c'est ces fameuses séquences enhancer. On s'est aperçu depuis, je dirais, une vingtaine d'années que, en fait, le pouvoir qu'on donnait au gène est un pouvoir relativement relatif. On pensait que le gène était quelque chose de bien intelligent, finalement. Il pouvait faire beaucoup de choses. Or, on s'aperçoit aujourd'hui qu'en tout cas, en ce qui concerne les gènes qui sont impliqués dans le développement, l'importance n'est pas tellement dans le gène lui-même. L'importance, la complexité, elle est apportée par le nombre de séquences régulatrices qui entourent ce gène. Et j'ai illustré ça ici, un noyau, on sort de ce noyau un morceau de chromatine, et dans ce morceau, vous avez un gène ici, cette boîte noire. Eh bien, vous voyez que ce gène va se trouver au milieu de ce que l'on appelle aujourd'hui un paysage de régulation, avec ici un élément qui fonctionne dans le système nerveux, ici dans le cortex, ici dans les glandes mammaires, ici, etc., etc. D'accord ? Donc, nous sommes passés d'une vue de la génétique qui était une vue centrée sur le gène, où le gène pouvait faire tout ça, à une vue qui est un peu différente. C'est-à-dire que le gène, en fait, n'est qu'un effecteur de ces séquences régulatrices multiples qui l'entourent. Alors, cela pose des questions formidablement intéressantes, notamment celle de l'émergence de ces séquences de régulation. D'où viennent-elles? Comment ont-elles pu évoluer? Mais d'un autre côté, puisque vous savez que le séquençage du génome humain n'a pas révélé de différence fondamentale dans le nombre et la structure des gènes entre les espèces animales, bien sûr qu'il y en a, mais de différences fondamentales, on comprend maintenant où se sont trouvées les différences. Principalement, ce ne sont pas dans les gènes, mais c'est dans la nature des régulations qui entourent ces gènes. Alors, cette évolution par régulation, cette évolution par modification des structures de régulation, plutôt que par modification des structures géniques, donc on ne touche pas le gène, on touche la façon dont il fonctionne. Cette hypothèse, comme vous le savez, a été, je ne dirais pas proposée, mais a été vraiment popularisée par le travail magnifique de Marie-Claire King et de Alan Wilson en 1975, avec cette publication extraordinaire pour cette époque, où ces deux collègues disent, lorsque l'on compare le chimpanzé et l'humain, on voit que les macromolécules sont « so alike ». Les macromolécules sont tellement similaires que les différences doivent se trouver dans la régulation. Et pour terminer, je vous rappelle que la fameuse publication de François Jacob, publiée dans le journal Science 2 ans plus tard, est en fait une publication transcrite d'une conférence qu'il avait faite à Berkeley, dont le sujet principal était le papier d'Alan Wilson et de Marie-Claire King. Dans ce papier resté fameux, dans cette publication dans laquelle François Jacob propose, vous en souviendrez, le terme de bricolage de l'évolution, donc ce qui signifie bien ce sorte de réarrangement d'éléments qui sont les mêmes, hein, ce bricolage de l'évolution, tinkering, c'est ce papier, en fait, qui est, avec les travaux de Julian Huxley, à mon avis, à l'origine, l'émergence de cette discipline de l'Evo-Devo, dont je continuerai de vous parler la semaine prochaine. Je vous remercie.